Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Jason Ballon Rond, un autre épisode de Jason Ballon Rond parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité footballistique présentement. Il y a présentement la Coupe d'Afrique des Nations qui se termine bientôt. Il y a le mercato européen comme du CF Montréal. Le CF Montréal qui a fait beaucoup de récentes acquisitions. Le départ de Jürgen Klopp et bien plus au menu. Et pour en parler, premier épisode studio de l'histoire de Jason Ballon Rond. Très content d'être là. Hans, Doualé et Baptiste, les gars, comment ça va?
Justement, ça va super bien, man. Je suis content d'être avec vous au studio en plus. C'est ça qui est incroyable, là. Fait que vraiment.
Ouais, moi aussi, là. C'est en studio, fait que c'est encore plus nice. On est tous à côté.
Ouais. C'est très immersif, super.
Exact, puis c'est vraiment spécial. Je pense que c'est un des premiers épisodes de l'histoire du Club École qui se fait en studio. Mm-hmm. Fait que tant mieux. Puis c'est le fun de voir les expressions faciales et tout, comme vous l'avez dit. Fait que les gars, commençons ça avec le CF, Mercato. Que 10 sur 10 pour moi, le mercato de la part de Lee Renard. Premièrement, il y a eu l'arrivée de Laurent Courtois, on en avait parlé au début. Mais là, on parle de Mathias Coccaro, niveau offensif. Joseph Martinez, qui était annoncé dans les derniers jours. Dominique Yankov, également en milieu de terrain offensif. Échange de Juan, ça fait déjà plusieurs semaines. Edwards. Mais surtout, le secteur offensif qui a été amélioré, puis c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'il y a à retenir. On peut commencer avec toi, hein? Qu'est-ce que tu retiens, puis qu'est-ce que les forces de ce mercato-là? Est-ce que tu aurais amélioré quelque chose aussi?
Non, amélioré, si je suis à la place des coachs et tout, je pense que c'est un mercato qui a été abouti, qui a été très réussi. Tous les secteurs qu'on devait s'améliorer, donc dans les flancs en tant que genre piston gauche, piston droit, avec l'acquisition d'Edwards, Juan et le secteur offensif, ça a été vraiment parfait. Les joueurs qui sont venus, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait leurs preuves en MLS, puis surtout des joueurs qui peuvent encore jouer dans le 11 partant, qui ont leur place dans le 11 partant. Puis ça fait une compétition interne, comme j'ai dit dans mon article. Tous les joueurs vont vouloir se prouver pour démarrer les matchs et tout. Donc je pense que c'est un mercato qui est vraiment intéressant parce que c'est pas juste un mercato qui a été fait pour dire ok, on a acheté des joueurs, on veut faire plaisir à nos fans qui ont été un peu déçus la saison d'avant. C'est vraiment un mercato qui veut se rendre utile. Donc c'est des joueurs qui ont quelque chose à apporter à cette équipe. Puis c'est de vue là, cette équipe là peut vraiment se qualifier pour les séries, je dirais pas assez facilement, mais jusqu'au deuxième tour, ça serait ça l'objectif là. Puis après on verra de quoi ça a l'air, mais pour l'instant, on dirait qu'il y a une bonne chimie d'équipe. Laurent Courtois, ça a l'air d'être un bon coach. Justement, il joue contre Atlanta United, match préparatoire.
Ouais, c'est aujourd'hui ou demain, ça?
Ouais, c'est aujourd'hui, justement.
Aujourd'hui, 7 février, qu'on enregistre.
Exact. Fait que, j'ai vu la compo. Là, c'est eux, arrière-gauche, dans un 3-5-1-2. Rida Zouir qui va jouer en 10. Donc, c'est intéressant de voir comment ça va fonctionner. Wanyama Piet au milieu de terrain.
Chouanière aussi. Où est-ce qu'il va aller là-dedans?
Exactement. Lui qui a remporté le MVP. Est-ce que Saliba va aussi pouvoir être dans le milieu de terrain? Il y a une grosse compétition à l'intérieur de l'équipe. C'est ce qui va forcer les joueurs à donner leur meilleur de eux-mêmes durant la saison.
Baptiste, on va aller avec toi. On a un spectateur en studio qui a gagné un bet, je pense. Mais Vincent Tardif qui est là. Ouais. Oh, but de CF Montréal pendant le match préparatoire. Merci, c'est un des avantages d'être en studio. On a des spectateurs et tout. Mais Baptiste, Anne a dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as ajouté sur ce mercato du CF?
Ouais, moi, je pense que c'est très positif. Puis ça montre beaucoup d'engouement pour les partisans. Je pense qu'on en avait besoin. 2022, on a eu un bon mercato, mais c'était pas une saison qu'on s'attendait à être aussi performant qu'on l'a été à terminer deuxième de l'Est, quatrième dans la Ligue avec Wilfried Nancy. Mais là, cette année, on a un engouement qu'on n'a pas eu l'an dernier, malheureusement, qui est réel. Puis c'est probablement l'un des meilleurs mercato réalisés dans l'histoire du club, en tout cas depuis 2015, là, qu'on avait fait la Ligue des champions avec Donadel, Nigel Rio-Cocker, Laurent Simon, tout ça. Ouais. Mais là, c'est probablement le meilleur mercato. En tout cas, c'est celui qui donne le plus d'excitation aux partisans depuis vraiment longtemps. Puis je pense qu'on peut juste viser une grosse saison avec des titres au bout, là, championnat canadien, se qualifier en Ligue des champions par la même occasion, aller loin en série. Tu sais, une fois qu'on fait les séries, je pense que Anne se dit on vise le deuxième tour, mais une fois qu'on les fait, peu importe, on est premier ou septième, ben on peut espérer aller jusqu'au bout. Donc on va voir ce que ça donne, mais beaucoup d'excitation.
Moi, je suis bien d'accord, puis D'où, tu pourras en chérir là si tu veux, mais tu sais, j'avais dit lors du podcast précédent que Laurent Courtois, son arrivée, je le disais, moi, ça, si on a encore un an, deux ans avec lui, juste perfectionner l'équipe, qui tend d'apprendre les rouages, puis de mettre son empreinte sur cette équipe-là, puis qu'on fasse pas les séries pendant cette année nécessairement, ça me dérangeait pas. Mais quand je vois le mercato qu'on vient de faire, clairement que le but, c'est les séries, c'est la Ligue des champions et tout. Mm. D'où, si tu veux me parler des peut-être des joueurs en tant que tel, là, on a parlé du mercato dans l'ensemble, mais Yankov, Coccaro, Martinez, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce que tu as hâte de voir là-dedans?
Ben écoute, moi, c'est comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, c'est surtout au secteur offensif que c'était là que le CF devait s'améliorer. Puis la saison dernière, c'est quoi? C'est 36 buts en 34 matchs, juste pour vous dire à quel point c'était un secteur qui était peu maîtrisé du tout par le CF la saison dernière. Puis là, déjà, juste l'arrivée de Joseph Martinez, ça, c'est absolument incroyable. C'est quand même 9e meilleur buteur de l'histoire de la MLS. Ça, c'est pas rien non plus. Il y a seulement 30 ans. Bon, on le sait, il y a eu une blessure. Il y a eu une grosse blessure il y a 2-3 ans, je ne me trompe pas. Puis la saison dernière, ça a été, surtout son début de saison, était plus difficile du côté de Miami. Mais vers la fin, avec l'arrivée de Messi, on voyait un Joseph Martinez revenir au niveau qu'il avait il y a quelques années. Puis juste ça, pour moi, c'est... Ça veut tout dire aussi. Puis en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur vedette depuis vraiment le départ de Piatti, là, je pourrais dire, là, surtout au niveau offensif.
Est-ce qu'il va être un joueur vedette? C'est ça l'affaire que je me questionne. Moi, je pense qu'il sera peut-être même pas titulaire. Moi, je pense que je vois Coccaro titulaire avant lui. Oh! Dominique Yankov est le marqueur, nous dit M. Tardif, merci, dans ce match préparatoire contre Atlanta. Ouais. Mais oui, continuons.
Puis Yankov aussi, si tu fais bien de mentionner, moi, c'est peut-être le joueur que je vais plus surveiller parce que j'ai souvent mentionné dans les premiers épisodes de Jean-Saul Balleron, pour moi, le CF n'a pas été capable jusqu'à peut-être maintenant de bien remplacer Georgi Mihailovic. Puis ça, j'ai trouvé que son départ là, après la saison 2022, la saison réussie que Baptiste avait mentionné plus tôt du CF, je trouvais que son départ a tellement fait de mal à la créativité offensive. Donc, déjà d'avoir un gars comme Yankov, comme milieu offensif, pour moi, ça va créer d'autres choses. Puis, à partir de là, moi j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. Mais aussi, il faut faire attention aussi. Là, j'ai pas envie d'avoir des attentes trop élevées pour le CF. Puis toujours espérer revoir la saison de 2022 ou revoir même... Les années de Drogba aussi, là, où on a eu le droit à une finale de conférence, puis même je pense que c'était la même année, ou presque, c'était un espace de 2 ans, là, mais où que CF s'était qualifié en finale de Ligue des champions de CONCACAF, et par la suite, l'année suivante, faire une finale de l'Est, c'est quelque chose qui était assez fou, mais je ne veux pas mettre trop d'attente pour le CF, mais franchement, à date, là, je suis très content de voir ce qui arrive à Montréal, là, ça, c'est incroyable.
Excitant, puis on parlait justement peut-être de la composition. On parlait avec Doug qui parlait, c'est ça. Si, est-ce que Martinez va être un joueur vedette? Moi, je pense qu'on va utiliser Coccaro comme titulaire. Est-ce qu'on va jouer à deux strikers? Je pense pas. Moi, je pense que de ce que j'ai vu, les compositions probables, ce serait Coccaro avec Yankov et Opoku, probablement, ce qui semble très intéressant sur papier. Ouais. Baptiste, comment vous voyez ça? Au milieu de terrain également, là, on a quoi? 6 milieux de terrain qui ont été parfois titulaires l'an dernier, puis là, il y a seulement 3 postes disponibles. Là, donc, comment vous voyez ça à l'attaque, mettons?
Ben, à l'attaque, moi, je vois comme toi, là, Yankov en 10, Opoku qui pourrait soit jouer en 10 avec Yankov ou en pointe avec Coccaro.
Même peut-être si... un petit peu plus derrière que Coccaro.
Ouais, peut-être un peu plus derrière parce que je sais que Coccaro a dit la semaine dernière qu'il préférait jouer seul en pointe, mais après, c'est un joueur collectif, donc il va être capable de s'adapter, je pense, peu importe la situation.
Et Martinez, super sub, en rotation aussi, qui peut être titulaire de temps en temps. C'est vraiment intéressant.
Mais... Puis il ne faut pas oublier Jules-Anthony Vilsain. Ouais. Va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire avec tous les attaquants-là parce que Vilsain, Toy,
le cousin de Doualé.
Non, c'est pas moi. Ok, là, c'est important de mentionner. Ok. Sunusi Ibrahim n'est pas mon cousin. C'est juste drôle que moi et lui, on a le même nom de famille. C'est juste ça. Mais moi, je.
On continue la
joke. C'est une belle blague. Ouais. Donc, vous pouvez continuer à dire que c'est mon cousin. Mais continue. Ouais.
Et Offort qui a été en prêt.
Ah oui, ça je voulais. Mais attends, Ali, là ça tombe bien qu'on soit en studio. Là. Pas trop triste du départ de Offort.
Ben non, honnêtement, ça libère une place. Fait que moi, je suis très heureux. Je l'ai souvent dit à Offort que pour moi, c'était pas un attaquant de calibre MLS tant qu'à moi. Il a un bon contrôle de ballon, mais une fois qu'il avait le ballon, c'était désastreux. Il était bon de la tête, puis pour amortir. Mais après ça, quand il fallait créer du jeu, puis être en pivot, c'était un. J'ai rarement vu un attaquant aussi pire que ça que Offort. moi qui ne sois plus là, ben, je le remercie pour ses services, mais bien content qu'on ait d'autres joueurs que lui. Mais ouais, tu disais...
Ben c'est ça, ouais, je vois la même attaque que toi. Moi, les questions qu'il me pose, c'est plus au milieu de terrain. Samuel Piette ou Wanyama, est-ce qu'il va revenir avec le nouvel entraîneur? Rida qui revient d'une énorme saison en USL. Ouais. Nathan Saliba, on peut dire ce qu'on veut, mais après la saison qu'il a fait l'an dernier, on ne peut pas le délaisser, on ne peut pas ne pas le mettre titulaire pour moi au premier match le 24 février prochain. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au milieu. Dans le couloir gauche aussi, avec Lasseter, Raheem Edwards ou Mathieu Chouanière, on va voir s'il va plus être utilisé au milieu ou sur le côté. Puis en défense, on sait que Waterman, Corbeau, c'est pas mal assuré, mais Campbell qui a fait une saison compliquée l'an dernier. Coussa l'an dernier, mais c'était sa première saison complète avec Montréal, donc on va voir. Puis il y a Joaquin Sosa qui arrive, un gaucher. Donc
qui ont très peu vu l'an dernier.
Aussi.
Sosa qui fait partie du 11 partant là, aujourd'hui en plus, avec Campbell. Mais avec Waterman aussi. Donc,
C'est là que j'ai l'impression qu'on est un peu plus faible, parce que la seule arrivée, Sosa, qu'on n'a pas nommé, mais qui est une autre arrivée, c'est la seule arrivée qu'on a faite en défense, défense centrale, je parle.
Doody du draft.
Oui.
Courtois a eu des bons commentaires cette semaine. Là.
Est-ce qu'il va être vraiment titulaire puis avoir des minutes cette année? Je sais pas, mais c'est vrai. Fait que, la défense, c'est sûr, ça va être à voir. Si j'ai une graine dans l'effectif, moi, ce serait là. Je connais pas encore Sosa, peut-être qu'il va me surprendre vraiment. Mais ce qui est fou, c'est, comme tu l'as dit, la profondeur. Au milieu de terrain, toi, qu'est-ce que tu fais, Hans? Wanyama, qu'on pensait tous qu'il allait partir, là, j'ai rien vu comme quoi il partirait, donc je prends compte qu'il va rester, ce qui est une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est un solide joueur encore, Wanyama. Toi, qu'est-ce que tu ferais au milieu de terrain? Saliba, Chouagnon, il y a 10 qu'on n'a même pas mentionné, mais moi, c'est ma dernière option, il y a 10. Là.
Mais dans tout ça, au moins, la chose rassurante, c'est que c'est un beau problème d'avoir plusieurs options. Ce qu'on n'avait pas auparavant. Puis que Laurent Courtois, tu sais, justement, a redonné envie à ces joueurs-là, comme Wanyama, Piette, de jouer. Si je devais, disons, dans un milieu à, on va dire, à 2, là, 2-6 de milieu.
Ouais, c'est vrai, si on joue avec des pistons,
dépendamment,
il y a seulement deux postes au milieu.
On va dire, c'est sûr que je pense Piette serait de la formation partante. Mais après, tu sais. Piette, Wanyama, peut-être Chouanière, peut-être Piette, Saliba.
Baptiste qui disait que Saliba, pour lui, était clairement un titulaire. Ça veut dire que t'enlèves un Piette, t'enlèves un Wanyama?
Pour moi, Piette, il a fait son temps, je pense. En tant que titulaire indiscutable, je pense qu'il a fait son temps. Après, c'est un joueur qui va encadrer les jeunes, puis ça reste un leader positif, puis un gars qui va toujours se donner sur le terrain. Donc, on peut l'utiliser dès qu'on en a besoin, mais pour moi, en ce moment, le numéro 1 au milieu de terrain, ça reste Nathan Saliba, au vu de la saison 2023. Après, ça dépend de la pré-saison. Puis on va voir le début de saison, mais en 2023, le meilleur milieu de terrain du CF Montréal, mis à part Chouanière, on va c'était Nathan Saliba.
Puis c'est surtout qu'il a vraiment progressé. Là, c'est pas juste qu'il a été bon tout le long de la saison, mais du premier match jusqu'au dernier, je pense que c'est le gars qui a le mieux évolué. Aussi, on n'a pas parlé, mais Bryce Duke.
Où
est-ce qu'il va être? Je pense que c'est un des gars que son temps de jeu va être très limité. Surtout s'il doit jouer en tant que milieu offensif. Là. Il y a, d'après moi, deux joueurs avant lui.
Opoku, Yankov.
Exactement. Puis, au vu des plans de Courtois, là, je ne pense pas que Duke figure dans ses premiers choix. Donc, ça sera intéressant à voir durant la saison.
Pourquoi pas le vendre s'il n'y a pas de. C'est sûr qu'on va attendre de voir si on a des blessures et tout. Puis il pourrait toujours surprendre Doug au camp d'entraînement, dans les premiers matchs, camp d'entraînement et en ce moment. Mais le milieu de terrain, Chouanière, tu parlais Saliba qui est ton numéro 1 au milieu de terrain. Ça veut-tu dire que tu mets Chouanière à gauche devant Saliba et Lasseter? Lasseter et Edwards, excuse.
Ouais, c'est ça, l'affaire, c'est qu'à gauche, on en a trois si on met Chouanière avec Lasseter, puis Raheem Edwards qui peuvent jouer à cette position-là. Donc, trois joueurs à un poste, trois joueurs qui peuvent, on va dire, être titulaires, ça fait beaucoup. Donc, je pense que les plans de Courtois en allant chercher Raheem Edwards, c'est de mettre Chouanière au milieu, mais ça va dépendre. Après, le mercato n'est pas fini dans les deux sens. Là, en MLS, on peut aller en chercher, même si je pense que du côté des arrivées, on va pas avoir beaucoup de nouvelles arrivées, mais du côté des départs, je pense que c'est pas complètement fini de ce côté-là. Donc, on va voir.
Il y a qui est parti jusqu'à maintenant? Amdi?
Offort.
Offort
en prêt.
Ouais.
Ben, Kyoto,
Pantémis.
Kyoto, c'est vrai.
Kyoto qui a signé aujourd'hui en deuxième division d'Arabie Saoudite.
Ah, OK. Ouais.
Donc, à un mois, même pas deux semaines après être parti de l'Iran, là, il a signé aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc
deuxième division.
Ouais. Mais à deux points de la montée.
OK. Donc, une équipe compétitive de la deuxième division. OK. Ouais. Mm-hmm. Puis, on a parlé de toutes les positions, sauf peut-être les gardiens, d'où, je ne sais pas si tu veux, Sébastien Brezza, qui est une autre arrivée.
Ouais, c'est, ben, le retour, en fait.
Oui, exact.
Le retour, mais...
Okay, c'est roi number one,
ben,
of course.
C'est ça, je m'en allais dire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Là,
je pense pas non plus.
Je pense que même moi, je l'ai dit la saison dernière, pour moi, Jonathan Sirois était le meilleur joueur du CF Montréal, là, avec Chouanière, là, évidemment. Là, mais pour moi, il était clairement celui qui a sauvé le CF à plusieurs reprises. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à y avoir pour Sirois en étant gardien de but numéro 1. Mais ouais. Brezza, par contre, c'est intéressant comme retour. Hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense que c'est un gars d'Ottawa, je ne me trompe pas, Sébastien Brezza. Mais en tout cas, j'ai hâte de... Je pense qu'il est franco-ontarien, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il faudrait que je fasse mes recherches. Je vais faire mes recherches rapidement,
oui.
Mais...
Si oui, mais c'est pas. Mais
bref, ça va être intéressant de voir comme gardien de but numéro 2. Ouais. Écoute, s'il est capable de. Je pense que c'est un peu moins le cas dans le monde du foot, là, par contre, là, d'avoir un gardien de but qui joue plusieurs matchs. Mais par exemple, s'il est capable de, des fois, venir en aide un peu à Sirois, s'il est fatigué par moment, là, surtout, je pense, au championnat canadien, là, ou à d'autres matchs qui peuvent arriver pendant la saison. Puis aussi la League's Cup aussi. Là, donc, il va y avoir plusieurs compétitions pour le CF Montréal. Donc, peut-être que s'il est capable de venir épauler de temps en temps Sirois pour pas qu'il joue tous les matchs du CF cette saison, c'est sûr que ça va faire du bien pour l'équipe, là, ça clairement.
Tout à fait, moi j'ai hâte de voir Sirois sélectionné par Team Canada, ouais. L'équipe canadienne, parce que là, Borjan, il est temps que ça finisse son affaire. Ouais. Puis là, t'as Crépeau qui est avec les Timbers, si je ne me trompe pas, voilà, ouais. Timbers, donc Crépeau-Sirois, peut-être un duo québécois.
Ouais,
en passant,
j'avais raison. C'est un gars d'Ottawa.
Merci l'info. Est-ce qu'on passe à la CAN, les gars? Je pense que le CF, tout a été dit pas mal. Ouais. D'où, pendant qu'on y est, ta Côte d'Ivoire, que tu avais prédit en début de tournoi, qui gagnerait la compétition, ben, elle vient de passer, d'avoir son billet pour les demi-finales avec le Nigeria. Veux-tu me parler de la Côte d'Ivoire et de la CAN en général?
Écoutez, la Côte d'Ivoire représente un peu la réalité de la CAN 2023. Une CAN exceptionnelle avec plein de matchs, avec des rebondissements fous. Écoute, juste on peut juste parler des forces de groupe. Là. Déjà, la Guinée équatoriale qui termine premier du groupe A. Le Cap-Vert qui a été absolument incroyable, qui malheureusement s'est incliné en quart de finale contre l'Afrique du Sud à un tir au but. L'Afrique du Sud, c'est un autre parcours aussi absolument exceptionnel. L'Afrique du Sud qui s'est rendu en demi-finale, qui a perdu au tir au but également contre le Nigeria. En parlant du Nigeria, ça aussi c'est une autre erreur que j'ai faite. J'avais dit aux gens de ne pas miser sur le Nigeria parce que je me disais qu'il me manquait un peu de profondeur, surtout à partir du milieu et de la défense, que j'étais un peu moins certain là-dessus. Ben, je me suis trompé parce que le Nigeria s'est qualifié en finale aujourd'hui de la CAN. Mais la Côte d'Ivoire, écoutez, la Côte d'Ivoire a un parcours de malade, là, c'est pas compliqué. Là. J'ai rarement vu ça. Là. Termine troisième de son groupe, se qualifie en étant parmi les meilleurs troisièmes de toute la compétition. Par la suite, est obligé d'affronter le Sénégal, qui était l'équipe championne en titre en ce moment-là, qui était l'équipe favorite, ben en tout cas une des équipes favorites avec le Maroc pour gagner cette compétition-là. Réussit à battre le Sénégal. Par la suite, se retrouve à jouer en quart de finale contre le Mali. Et honnêtement, je suis prêt à dire, là, le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est probablement le match le plus fou que j'ai vu de la CAN là, pour l'instant, là, avant la finale. Le Mali avait toutes les occasions du monde pour éliminer la Côte d'Ivoire. Là. Déjà, le penalty très tôt en rencontre raté.
Mali qui est une belle équipe.
Qui est une belle équipe. Par la suite, la Côte d'Ivoire qui se retrouve à 10 contre 11 pour toute la deuxième demi et également la prolongation. La Côte d'Ivoire qui crée l'égalité à la 98e minute, donc dans les arrêts de jeu. Par la suite, marque le but de la victoire dans les arrêts de jeu à la 122e minute de jeu pour se qualifier en demi-finale. Et par la suite, ben, également... Et la République démocratique du Congo, la RDC, en passant, ça aussi, c'est un autre parcours absolument
quelle
incroyable.
Quelle surprise, là, je ne les voyais pas du tout. Là.
Qui s'est rendu quand même en demi-finale de la CAN. Donc, pour vrai, c'est un tournoi pour l'instant qui est réussi de A à Z. Là, puis, qu'est-ce qui est encore plus fou, c'est que toutes les équipes qu'on pensait qui étaient favoris pour remporter ce tournoi-là, tous éliminés très tôt, là, que ce soit l'Algérie qui s'est éliminée dès la phase de groupe, t'as le Maroc qui se fait éliminer par. J'ai un blanc de mémoire.
L'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, exactement. Le Sénégal qui part en 8e également contre la Côte d'Ivoire. Exact. Bref, il y a plein d'équipes là, pour l'instant. Donc, honnêtement.
La blessure de Mohamed Salah.
Mohamed Salah, c'est vrai, l'Égypte.
Qui a coulé l'Égypte, ouais.
Qui a coulé l'Égypte. Mais l'Égypte, quand même.
Qui a quand même été pas
comme d'habitude,
lui,
ouais. L'Égypte, c'est une équipe qui est coriace. C'est une équipe qui. Quand tu regardes sur le papier, tu te dis, oh, OK, il n'y a pas vraiment de joueur qui ressort du lot, à part Mohamed Salah, ou, mettons. C'était un peu sorti le Mohamed El Nini qui est remplaçant à Arsenal. Mais à part de ça, c'est une équipe qui réussit toujours à s'en sortir puis même à aller très loin dans la compétition.
C'est le plus de Cannes.
C'est l'équipe la plus titrée de l'histoire de cette compétition-là.
7,
exactement. Ouais. Donc écoute, c'est un tournoi qui est exceptionnel. Et moi, j'ai hâte de voir la finale. Pour vrai, ce serait quand même extraordinaire que je réussisse à avoir ma prédiction parfaitement. Ça veut dire la Côte d'Ivoire championne chez elle, ça serait malade, ça serait fou. Puis ça me ferait un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, je vous l'avais dit là, encore dans une conversation, que pour moi ça ressemble drôlement au parcours du Portugal en 2016, drôlement. À part que c'est un Portugal, c'était par moments c'était pas mal très serré là. Je pense qu'il y a juste eu un match un peu comme finalement comme la Côte d'Ivoire où que elle avait pas eu besoin de se rendre.
Mais je trouve
dans
que
la
Côte d'Ivoire est une équipe, une plus belle équipe que le Portugal.
Ouais, temps supplémentaire, c'est ça que je voulais dire.
Leur parcours depuis la fin de la phase de groupe, c'est plus le fun à assister que le Portugal, de ce que j'ai comme souvenir du Portugal. Là,
oui, exactement.
Un but de Eder qui venait de nulle part là, contre la France, c'était de l'adrénaline, c'était un gros moment de soccer, mais c'était pas nécessairement. Ça venait pas d'une belle performance tant que ça, puis d'un si beau parcours. Là.
C'était un vol, là, comme on pourrait le
qualifier. Ouais, si on y va en termes moins subjectifs, oui, ben plus subjectif en effet.
Mais non, franchement, dans l'ensemble, moi je trouve, en tout cas, c'est de loin la plus belle CAN que j'ai vue à vie. Là. C'est... Puis écoutez, les gars, c'est prometteur pour l'année 2024. Mm-hmm. Là, la Coupe d'Asie est un petit peu plus décevante, par contre, je trouve.
Coupe d'Asie, le Japon sorti encore à l'eau.
Mais je pense, la Jordanie en finale.
Finale
Jordanie 14.
C'est 14.
C'est très intéressant.
C'est quand même. Je m'en pas du tout à ça.
C'est ça, mais si tu regardes le reste, tu es. On va avoir le droit à quelque chose d'extraordinaire, j'espère, pour l'été aussi, là, avec l'Euro, avec la Coupe américaine, avec les Jeux olympiques qui arrivent. Ça va être extraordinaire, je le sens.
On va avoir un bel été au niveau sportif, là, fait que ça, c'est certain. Puis, la CAN, Dou a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai plus rien à rajouter vraiment sur la CAN, mais vous autres, équipe qui vous a surpris, déçu, que Dou n'a pas mentionné ou que vous voulez ajouter?
Moi, si je peux commencer, c'est le Cameroun. On m'a déçu.
Ouais,
C'est une équipe qui est historiquement est connue pour ses belles prestations en CAN, justement comme l'Égypte, que malgré que l'effectif soit pas rempli de superstars,
il se présente. Aboubakar n'était pas là, right?
Il était blessé, mais c'est une équipe qui a déçu. Tout comme le Maroc aussi, ça n'a pas été wow non plus. Puis l'Algérie, encore une fois, qui n'a pas su se relever de sa dernière CAN, qui ont fini dernier dans leur phase de groupe aussi. Donc, ce qu'on remarque de la CAN, c'est justement de ne pas faire de prédictions trop tôt, à part Dou qui réussit avec la Côte d'Ivoire. Mais
Dou qui, ça va gagner dans son estime, mais 0$ cependant.
mais c'est important de
Non, mais l'estime, c'est plus important.
Ma fierté est plus importante que l'argent, ça, c'est important.
Exactement.
Bon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être en accord avec ça, mais je vous dis, moi, je suis là pour aider les gens, c'est tout. Mais moi, j'ai pas besoin de faire d'argent avec ça.
Pour aider les gens, mais c'est peut-être juste toi, là, avec cette prédiction-là. Là. En tout cas, on a coupé Hans, le continue.
Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, la CAN, c'est vraiment un tournoi où c'est pas la meilleure équipe bourrée de talent qui va gagner. C'est vraiment l'équipe la plus unie qui va se battre jusqu'à la fin. Tu sais, la Côte d'Ivoire qui gagne contre le Mali avec un homme en moins, alors que ça faisait aucune différence vraiment sur le jeu. Ça paraissait même pas qu'ils étaient. T'sais, c'est vraiment l'unité qui va faire la différence dans cette CAN. C'est un style de jeu différent de l'Europe, donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs qui vont t'amener loin, c'est vraiment plus les joueurs qui ont, comme on dit, la grinta, qui ont vraiment l'envie de jouer, qui vont permettre à une équipe, une nation justement, de progresser. Le parcours de la Côte d'Ivoire ou le Congo qui a fait des matchs nuls jusqu'à la ronde des 16, qui se rend aujourd'hui, qui part en demi-finale. Ouais. Donc c'est vraiment ça, le talent, c'est pas significatif de ton parcours, c'est vraiment plus l'envie. Donc c'est une très belle CAN, ça met la table pour une belle année de soccer là, en 2024. Et j'ai hâte de voir si l'Euro, la Coupe américaine, ça va être à la hauteur. Là. Vraiment, ils ont mis la barre très très haute, la CAN aujourd'hui.
Puis avant qu'on switch vers toi, Baptiste, Ce que tu parles là-dessus de l'unicité, ça se voit même ici au Québec avec les partisans africains. On a fait un article, moi et Doualé, là-dessus, sur l'engouement de la Coupe d'Afrique des Nations au Québec. Aux résidences, on l'a vu, mais c'est vraiment ça. C'est, je sais pas si c'est contrairement à l'Europe, mais tu vois vraiment que le patriotisme, la fierté de la nation, la grinta, comme tu parlais, c'est ce qui est dans ces équipes-là, puis c'est ce qui reflète sur les partisans africains qu'il y a ici au Québec. Puis pour continuer, toi, Baptiste, on nous a parlé du Cameroun et d'autres équipes. Est-ce que tu as autres équipes à mentionner, toi?
Ben, personnellement, le Cap-Vert, je l'ai suivi beaucoup parce que c'est la seule équipe qui avait deux joueurs MLS qui est dans l'équipe, Jamiro Monteiro puis Steven Moreira, dont Jamiro a été joueur du match du troisième match de poule. Puis Steven Moreira, comme avec Columbus, a été incroyable toute la compétition. Quart de finale pour un petit pays si minuscule, c'est vraiment incroyable. Donc, puis il jouait bien au soccer, même s'il y avait beaucoup de joueurs sans club depuis plusieurs mois, des joueurs qui jouaient dans des championnats un peu plus méconnus. Donc, c'était vraiment agréable de les suivre. Sinon, l'Afrique du Sud avec Coach Bruce, je veux dire, cet entraîneur-là, c'est un entraîneur d'expérience qui avait mené le Cameroun au titre en 2017. Donc, on a vraiment ressenti son expérience derrière ce banc-là. Puis l'Afrique du Sud a vraiment bien joué, a fait des énormes matchs. Comme aujourd'hui, en demi-finale, ils sont sortis malheureusement, mais rien à dire sur leur performance. Puis sinon, un pays que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti trop tôt, je pense, c'est la Guinée équatoriale, qui fait une phase de poule magnifique. En huitième de finale, carton rouge vient un peu briser leur parcours, mais énorme performance de leur part en phase de groupe. Puis ils sont dans la continuité d'une belle édition précédente, où ils s'étaient rendus, je pense, en quart de finale aussi. Donc, c'est bien pour le pays. Puis personnellement, c'était la première CAN que je suivais vraiment à fond. J'ai aucune origine africaine, mais je l'ai suivi à fond. Puis avec tous mes amis qui ont du Maghreb, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, peu importe, c'était super. L'engouement était incroyable. Les blagues qui se font entre les gens, il n'y a aucune coupe nationale, continentale plutôt, qui fait ça.
Donc, c'est vraiment, ce que nous disait Cinefo, d'ailleurs. Mm-hmm. Tu sais que l'engouement était supérieur à l'euro, puis je commence à le croire, là.
Non, mais en effet, là, j'ai d'autres amis aussi qui viennent d'ailleurs dans le monde, puis les blagues, man, qu'on voit là, sur les réseaux, c'est exceptionnel. Puis tu sais, l'autre affaire aussi qui est assez importante, maintenant que je peux te donner comme exemple, la Côte d'Ivoire, là, dès les forces de groupe se retrouvent sans entraîneur.
C'est vrai, la folie.
En plus, le plan initial que la Côte d'Ivoire voulait faire, c'était d'aller chercher Hervé Renard, qui est entraîneur de l'équipe France féminine. Après. Et le pire, c'est que le gars allait accepter. C'est la Fédération française qui a refusé.
Ouais.
Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a quelque chose d'assez loufoque dans tout ça. Là.
Fait que là, c'est l'assistant qui est en charge? C'est quelqu'un par intérim? C'est qui est...
C'est Emers, l'ancien joueur de la Côte d'Ivoire, je crois. Emers Fier ou Emers...
Est-ce qu'il était déjà avec l'équipe depuis le début de la compétition? Oui, il rentre là-dedans, en tout cas. Ça sera à vérifier, mais ça, c'est complètement incroyable comme situation pour la Coupe d'Ivoire. Tu parlais du Cap-Vert, c'est justement contre l'Afrique du Sud, ce fameux match où le gardien sud-africain, que j'ai oublié le nom, a stoppé 4 pénalties. Ça, c'était incroyable comme moment aussi. Pendant que. Je sais pas si tu voulais chercher le nom.
Je cherchais le nom de gardien
Mais ouais, est-ce que tu avais. Pour le Cap-Vert, on t'avait coupé tantôt, t'avais-tu autre chose à ajouter sur une autre équipe, sur le nom? Fait qu'on peut passer à Jürgen Klopp, messieurs. Jürgen Klopp qui a 2 semaines à peu près annoncé qu'il ne reviendrait pas comme entraîneur de Liverpool, que ça serait sa dernière saison à la fin 2024. Et quand il a dit ça, Liverpool était au sommet de la Premier League. Ils le sont toujours, mais Manchester City a un match en main et, advenant une victoire avec ce match en main-là, dépasserait Liverpool. Liverpool est également en Europa League. Mais avant de parler de tout ce qui entoure les résultats présentement, Jürgen Klopp, qui est là depuis 2015 à Liverpool, c'est quoi l'impact qu'il y a eu, le rôle qu'il y a eu sur la Premier League, sur l'équipe de Liverpool, où est-ce qu'il est amené? D'où est-ce que tu veux prononcer là-dessus? T'as-tu trouvé le nom de...
Ah, c'est Williams.
Williams, OK. Ouais. Donc, voilà.
C'est ça, exactement. Mais bref, pour Liverpool, c'est pas compliqué. C'est une équipe qui, aller nulle part là, au moment que Jürgen Klopp est arrivé. Il faut dire...
qui était avec Rafael Benitez?
Non, c'était Brendan Rodgers à ce moment-là qui était entraîneur-chef de Liverpool, qui s'était fait congédier. Ouais, mais ouais. L'année d'avant, il a terminé 8e de PL après une saison. Puis on va revenir, il y a plusieurs années de ça, on va revenir il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était la fameuse saison que Liverpool était passé à pas grand-chose de remporter la Première Ligue avec Luis Suarez qui avait une saison folle. C'était dans la saison avant son transfert à FC Barcelone. Et c'est la fameuse année où Steven Gerrard a glissé dans un match contre Chelsea qui a permis à Chelsea de remporter le match et Liverpool qui a perdu le titre par la suite. Mais à partir de là, tu as Suarez qui part. Raheem Sterling aussi qui est transféré aussi du côté de Manchester City, puis Stevie G qui part un an plus tard, puis à partir de là ça a juste crash,
dégringolé.
Et par la suite, en début de la saison 2015-2016, t'as Brendan Rodgers qui se fait congédier après un mauvais début de saison de Liverpool, et Jürgen Klopp qui venait tout juste de quitter Dortmund. Puis aussi c'est un autre parcours absolument incroyable, celui de Klopp à Dortmund aussi. Ça, on peut en raconter ça un peu plus tard, mais c'était assez exceptionnel. Par la suite, on se retrouve avec une équipe de Liverpool qui allait nulle part. Puis à ce moment-là, t'avais quand même des joueurs avec du gros potentiel qui viennent d'arriver. Là, t'avais Coutinho qui était à son apogée, t'avais Roberto Firmino qui venait d'arriver, t'avais quand même des morceaux,
une des premières signatures
de club aussi. Et à partir de là, il a juste décidé de reconstruire le club tranquillement en ciblant des joueurs de première ligue qu'on s'en attendait pas. On peut penser à Sadio Mané qui jouait à Southampton à ce moment-là, et Wijnaldum aussi qui était là. Les deux, juste chercher ces joueurs-là. Je pense qu'il jouait à Hull City à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Par la suite, il a misé sur l'effectif qu'il avait, et par la suite, le transfert de salaire à 40 millions. Et le coup de génie aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, je pense que c'est à partir de là que ça a tout changé à Liverpool. C'est quand Philippe Coutinho a été transféré du côté de FC Barcelone, puis qu'avec cet argent-là, ils ont été capables de chercher Virgil van Dijk et Alisson Becker. À partir de là...
Tu viens nommer les trois signatures les plus...
À partir de là, c'est là que Liverpool a commencé à être parmi le top 2 des meilleures équipes de PL depuis 6-7 ans.
Je dirais même top 3 mondial pendant plusieurs années.
Je pense que je ne mettrais pas top 3, là, je mettrais peut-être top 5. Là, je pense que t'as le Real qui est en avant, t'as City qui est en avant.
Non, mais pas nécessairement maintenant, mais dans la période entre 2018 et 2022, je les mets top 3, top 4 mondial.
Exactement, c'était parmi les meilleurs clubs au monde. Puis à ce moment-là, il a réussi à construire une équipe avec quand même des moyens, mais tu sais, c'est pas comme City qui avait un budget de malade, qui ont dépensé de fou. Et même chose avec United, aussi qu'on oublie souvent, que United aussi a beaucoup dépensé depuis plusieurs années.
Ou Chelsea dernièrement.
Mais Chelsea, c'est plus 2022, mais City, puis United, les deux équipes de Manchester qui ont dépensé beaucoup plus que Liverpool à ce moment-là. Et à partir de là, Jürgen Klopp a amené une mentalité du côté de Liverpool, une mentalité de... l'expression
de bâtir une équipe
gagnante. Puis tu sais la fameuse expression, la fameuse chanson You Never Walk Alone, je trouve que Jürgen Klopp représente ça en fait. Finalement, ce mec-là représente Liverpool alors que c'est un Allemand à la base. Donc non, pour vrai, c'est un parcours absolument incroyable. Puis c'est dommage qu'il part, mais en même temps, peut-être qu'il a jugé que c'était le moment parfait pour quitter Liverpool. Moi, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi la suite des choses. Ça va être quoi la transition? Est-ce que. Évidemment.
Si on va en parler plus tard.
Moi, j'ai une idée en tête. Ça serait mon rêve, mais je pense pas que ça va arriver. Mais je veux pas le dire, je vais attendre un peu. Mais bref.
On sait de qui tu parles, mais avant qu'on aille dans le. T'avais-tu autre chose?
Non, mais vas-y.
Ok, parfait. Mais première chose que tu as dit, c'est que tu as dit Dortmund. Puis si je me rappelle bien, avant de quitter Dortmund, avant de joindre Liverpool, en fait. Il avait pris une pause de 2 ans après Dortmund, avant de rejoindre Liverpool, quelque chose comme ça.
Ouais.
Alors là, il a dit qu'il, pour le moment, il n'envisageait pas de revenir dans le coaching, dans le management d'une équipe de soccer. Est-ce que c'est seulement une pause puis il revient? Pep Guardiola l'a dit en conférence de presse, il a dit « Ah, il va revenir, il ne sait juste pas pour le moment, mais il va revenir. » Je pense que ça se peut bien. Puis, autre chose que tu as nommé super important, c'est justement, contrairement à d'autres équipes, il y avait beaucoup de budget. La grande force de Jürgen Klopp, c'est qu'il est allé chercher des joueurs qu'on ne voyait pas nécessairement comme des superstars. Et il les a transformés en superstars à Mané, Van Dijk, qui était un espoir, mais c'était pas des joueurs qu'on dit il va être le meilleur défenseur du monde un jour, ce gars-là. Mais, Alisson, mais un peu la même chose. Fait que c'est fou ce qu'il a fait, l'unicité puis la fierté de jouer pour le maillot de Liverpool. Yeah. « You'll never walk alone ». C'est sûr qu'on est biaisé parce qu'on est fan de Liverpool, mais ouais. C'est quand même quelque chose que tout le monde le voit en ayant su cette annonce-là, que c'est quelque chose de gros là, dans le monde du soccer, pas juste pour Liverpool, cette grosse figure-là, le club qui quitte. Les gars, si on avait à comparer, mettons, Pep Guardiola, Klopp, qui sont arrivés presque en même temps de leur côté, j'ai pas qui est au-dessus, mais qu'est-ce qui différencie, puis où est-ce que vous donnez le plus de bénéfices là? Mettons, Baptiste, si tu veux commencer.
C'est deux parcours très différents, on l'a dit, Doualé l'a dit. Tu sais, Klopp, il part pas de rien, mais de pas grand-chose, on va dire, puis il reconstruit complètement un club historique qui est un peu en difficulté à son arrivée avec le départ de Rodgers. Tandis que Guardiola arrive dans une ère où City a les moyens pour investir. Après, il s'est bien servi des moyens, Guardiola, pour arriver à probablement la meilleure équipe l'année dernière de l'histoire de la Première Ligue. Après, mm-hmm. c'est discutable. Il y a d'autres éditions, il y a d'autres équipes. Mm-hmm. Mais une des meilleures équipes de l'histoire de la Première Ligue.
Ouais.
Puis pour moi, Guardiola, ça reste le meilleur entraîneur de l'histoire du football, que ce soit son passage à Barcelone.
Niveau tactique.
Oui, niveau tactique, je pense qu'il n'y a personne au-dessus.
Je suis d'accord avec toi, ouais.
Il fait confiance à des joueurs. Même De Bruyne, quand il est arrivé, il n'y avait pas une énorme étiquette. Il arrivait un peu à l'image d'un Van Dijk à Liverpool. Moins énorme que Van Dijk, on va dire. Van Dijk avait une image un peu plus basse, mais mm-hmm. quand même, il arrive du VfL Wolfsburg.
Ouais.
Donc, il arrive de loin, puis ça devient le meilleur milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot. Donc, pour moi, Guardiola a quand même une étiquette tactique un peu supérieure, mais Klopp, oui. ce qu'il a fait à Liverpool, c'est incroyable. Puis, ouais. ce que je retiens de Klopp, c'est que peu importe où il est passé, à Mayence, à Dortmund, puis à Liverpool, il a été adoré par les partisans des mm-hmm. trois clubs.
Sa personnalité, c'est...
attachant.
C'est, ouais, vraiment, là, il est drôle en conférence de presse, il fait rire, il est attachant, comme tu dis. Il y a cette tendance à que certains haters de Liverpool diraient de se plaindre toujours, mais en conférence de presse, se plaindre sur les arbitres, se plaindre sur les partisans qui aimeraient qu'ils soient plus brillants, plein de choses. Mais en même temps, je me dis, c'est une qualité à la base de se plaindre, puis c'est un entraîneur qui se plaint pas quand il trouve qu'une décision arbitrale était pas la bonne, ben je veux pas que cet entraîneur-là soit coach mon club, tu sais. Puis, pour ce qui est du niveau tactique, je suis amplement d'accord avec toi qu'au niveau tactique, Pep Guardiola est supérieur. Ce que Klopp a fait, que Guardiola n'a pas fait, je trouve, c'est de bâtir une équipe qui n'avait pas les ressources que Manchester City avait. Puis, comme on a avec tous les exemples de joueurs qu'on a nommés tantôt. Hans, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Et aussi peut-être parler d'un successeur de Klopp que Dou semblait mentionner tantôt, si tu veux te prononcer là-dessus.
Ouais, là. Justement, le départ de Klopp, ça va affecter positivement Liverpool, je pense que... à la fin de la saison, je pense qu'ils vont vouloir se battre pour lui, mm-hmm. remporter ce titre-là. Ils sont dans la course. Là,
il le faut pour la dernière saison.
Tout est faisable encore. Ouais. Mais justement, si on parle de club, on parle vraiment de sa mentalité qui a amené au club. C'est vraiment des... Je pense que si on avait la chance de parler à des joueurs comme Trent ou Virgil, Van Dijk, comme c'est des gars qui seraient prêts à aller à la guerre pour mm-hmm. cet entraîneur-là. C'est vraiment beaucoup d'émotions qui amènent. Puis il est connu pour former des équipes qui ne vont jamais lâcher. C'est souvent, on pense que
le caractère. Ouais.
C'est exactement à 2-0, le match est fini. Puis tu les vois revenir jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est vraiment ce caractère-là, justement, cette intensité qui a amené à ce club-là. Ça va être difficile de retrouver un autre entraîneur comme lui.
Ça, on peut pas remplacer son énergie puis sa mentalité là,
exactement mais ouais si on doit faire nos prédictions pour le prochain entraîneur, je pense que il se trouve en Allemagne en ce moment.
Il se trouve à Leverkusen, tu penses?
Je pense que oui. Xavi Alonso, ça m'étonnerait pas qu'il soit le successeur. Après, je pense que Liverpool, c'est pas une équipe qui va prendre le premier venu. Ils vont mm-hmm. réfléchir, surtout selon l'effectif qu'ils ont. Souvent, ils vont parler aux entraîneurs, voir leur projet, qu'est-ce qu'ils pensent faire avec l'équipe qu'ils ont. Donc, ça a été une longue période de réflexion, mais je pense que Xabi Alonso, c'est le numéro 1 là, sur la liste des candidats.
J'ai quelque chose à dire là-dessus, mais avant, je veux switcher à Dou, qui tu voulais en parler tantôt. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce potentiel futur succès entraîneur qu'est Alonso?
Ben écoute, moi je pense que c'est le remplaçant idéal, mais j'ai peur que le Bayern de Munich devance Liverpool. Mmh. Moi, c'est tout ça que j'ai peur. Mmh. Parce que, tu sais, tu regardes le Bayern de Munich en ce moment, c'est une équipe qui... Bon, Thomas Tuchel, C'est pas un mauvais entraîneur, mais j'ai vraiment l'impression que son style de jeu ne colle juste pas à l'identité du Bayern. C'est juste pas compliqué, là. C'est ça qui va arriver. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des départs aussi qui vont arriver prochainement du côté du Bayern. Donc j'ai vraiment l'impression que peut-être que le Bayern pourrait devancer Liverpool parmi les favoris de Xabi Alonso. Peut-être que Xabi Alonso même il va rester peut-être du côté de Leverkusen aussi. Qu'est-ce qui se passe si Leverkusen finit par finalement gagner la Bundesliga? On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais écoute, moi je pense que c'est ça. Mais sinon, honnêtement, à part de Xabi Alonso, je ne sais pas trop. Est-ce que ça peut être un ancien joueur? Moi c'est ça que j'ai peur aussi. Puis ça, je ne veux pas que ça arrive. Là. Si Liverpool décide de s'inspirer de Chelsea puis qu'il décide d'aller prendre Stevie G comme entraîneur, un peu comme Chelsea avait fait avec Lampard, ça serait la pire
de monde. Mais écoute, ce qui se passe en Arabie Saoudite du côté de Gerrard,
c'est pas un bon entraîneur et tout. Non. Mais je voulais revenir aussi rapidement sur la comparaison Guardiola et Jurgen Klopp. L'affaire avec Guardiola, puis ça c'est. Ça, on est en accord sur le fait que c'est un tacticien de génie. Mais par contre, il se retrouve du côté de Manchester City avec une équipe qui avait gagné 2 PL plus tôt avant qu'il arrive. T'sais. C'est une équipe qui était déjà bien partie.
2012 et 2014.
Il est arrivé en 2016. Ça faisait pas si longtemps que ça. Et il y avait quand même des morceaux relativement intéressants qui étaient déjà là. Tu avais De Bruyne et Raheem Sterling qui venaient juste d'arriver.
Aguero.
Tu avais Aguero qui était là à son apogée. Tu avais d'autres joueurs qui étaient là depuis longtemps encore. Tu avais des Kompany, des Yaya Touré. Tu avais des joueurs qui...
David Silva.
David Silva aussi. Ça, c'est un autre morceau hyper important de cette équipe-là. Donc, il n'arrivait pas
Kompany.
Ça, j'ai mentionné.
Ah, tu l'as dit, excuse.
Vincent Kompany qui... Tu sais, il n'arrivait pas avec rien. C'est ça. Alors que, tu sais, on regarde, par exemple, à Liverpool, tu sais, c'est une équipe qui... tu avais des Adam Lallana, tu avais... je ne veux pas y manquer de respect, mais tu avais Lovren qui était là en défense...
T'avais pas aussi Nathaniel Klein qui était encore là?
Nathaniel Klein n'était pas mauvais à ce moment-là. T'sais, t'avais des Alberto Moreno qui était en défense latéral. T'avais des joueurs que on regardait, on était comme...
Johnson, il était-tu là encore?
Non, je pense plus qu'il était là à ce moment-là. Je pense que c'était Klein. Mais t'sais, ça confirme ce que je disais sur le fait que...
C'était pas l'équipe de Liverpool était beaucoup plus basse. Club a bâti avec presque rien. Ouais. C'est la différence.
Puis l'affaire qui est quand même assez intéressante, c'est qu'au final, Jurgen Klopp a fini par gagner la Ligue des Champions avant Guardiola. Et Guardiola, ça lui a pris 10 ans avant de remporter une Ligue des Champions, que ce soit depuis son parcours du Barça. Il a pas gagné la Ligue des Champions avec le Bayern.
Mm-hmm.
Et ça lui a pris jusqu'en 2023 pour gagner une Ligue des Champions avec City. C'est ça qui est assez fou. Bref, c'est juste ça que je vais mentionner. Mon idéal, après ça, je vais te laisser parler, Baptiste. Mon idéal, c'est sûr que c'est Xabi Alonso. Ça serait mon rêve de voir Xabi Alonso, c'est ça.
Baptiste?
Pour poursuivre sur ce que tu dis, Douali, c'est sûr que maintenant, on regarde Manchester City, puis c'est fou, leur équipe. Mais quand tu regardes les recrues qu'ils ont pris, Bernardo Silva, il arrive de Monaco. Aymeric Laporte, il arrive de Athletic Bilbao. Ederson, il arrive de Benfica. Joao Cancelo, à l'époque, il arrive de Benfica. C'est pas des gros noms qui arrivent de gros clubs.
C'est
Il n'a pas été cherché à Chelsea, il n'a pas été cherché à Milan, il n'a pas été cherché au Real. Il a été cherché dans des petits clubs, des joueurs... Oui, overpaid, on va dire, ils les ont achetés un peu trop cher, mais parce que quand
des gars comme Grealish, mettons,
pour attirer les clubs.
Ou Benjamin Mendy, qu'on oublie souvent aussi, qui a acheté 70 millions là, en ce moment-là, c'est beaucoup. Là.
Mais ils sortent d'une saison à Monaco qui était quand même incroyable avec Mbappé. Ouais. Mais c'est sûr que quand un club comme City vient, tu l'utilises pour demander plus que ce que le joueur vaut réellement.
Ouais.
Mais après, il faut se rappeler que City, à la base, c'est sûr que ça a été plus long que Liverpool, mais. Les joueurs qui ont été cherchés, ce n'est pas des gros stars comme ceux à quoi on s'attendait à aller chercher Messi, Ronaldo. C'est des joueurs qui ont fait leur preuve à City, comme Julian Alvarez le fait en ce moment.
Mm-hmm.
À part Erling Haaland, là, qui c'était.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu des bons achats comme Liverpool a pu le faire. Mais Liverpool, à part, mettons, Szoboszlai, 70 millions cette année, je pense que c'est le plus gros achat dans l'histoire de club. Si je ne me trompe pas, 70 millions, là, il y a plus haut que ça.
Darwin.
Ah, il y a Darwin, c'est vrai. Il y a Darwin qui
est... le bon Darwin.
C'est vrai, il y a Darwin, mais à part
mais
ça...
Mais qui commence à prouver que ce n'est pas si pire, le 90.
Okay, c'est ça, ouais. Mais reste que avant peut-être Darwin, c'est une époque où est-ce qu'on s'en tirait avec des 40-50 millions.
Ouais.
que City dépassait plus. Et là, la différence, City le faisait. Mais c'est vrai que, bon point, Baptiste, là, que City aussi a fait des achats de clubs qui sont pas des gros clubs, qui sont justement des clubs où tu vas chercher des joueurs puis tu les fais développer dans ton équipe. Puis City l'a bien fait aussi.
Ouais, puis tu as raison aussi de mentionner, c'est vrai que City a beaucoup misé sur le Portugal. Oui. Parce que quand tu y repenses, un gars comme Ruben Diaz, là, qui a été acheté du côté
Diaz, Cancelo, Bernardo Silva, ça fait déjà trois pièces, grosses pièces de City.
Comme ça, ouais. Puis, tu sais, c'est des joueurs qui. Tu sais, Ruben Diaz, on savait que c'est un excellent défenseur, mais il a réussi à. Guardiola a réussi à développer, on peut dire entre guillemets, Ruben Diaz à être un des meilleurs défenseurs. C'était pas le meilleur défenseur au monde en 2023, là, tu sais, c'était ça. Là. Donc, c'est ça qui est assez exceptionnel. Il a vraiment mis ta raison sur le point que oui, Guardiola a misé sur des joueurs. De petits clubs là, entre guillemets là,
plus
parce
petits
quand même,
clubs,
de plus petits clubs, mais on peut dire la même chose aussi de Klopp là, avec EPL, mais c'est vrai que c'est t'as raison, c'est quand même un point qui est important à mentionner là.
Surtout qu'est-ce qui différencie un peu les deux, je pense, Guardiola puis Klopp, c'est que je pense que Guardiola a un peu d'avantage parce qu'il sait aussi transformer le style de jeu d'un joueur. Tu sais, admettons, on parlait récemment dans un dernier podcast de John Stones, qu'il a réussi à l'intégrer dans
qui était ton joueur de l'année 2023.
Exactement. Pas parce que c'est exceptionnel, mais juste parce qu'il s'est adapté à jouer dans un poste de numéro 6 comme milieu défensif dans une équipe qui, des fois, avec l'absence de Rodri, avait de la difficulté à trouver le jeu ou quoi que ce soit. Guardiola, le nouvel achat qui peut jouer à gauche, qui s'intègre des fois au milieu, comme Zinchenko le faisait auparavant.
Akanji qui s'est adapté également.
Ake. Il a transformé. Tu sais, Bernardo Silva était déjà un bon joueur, mais il l'a rendu un joueur de classe mondiale. Kevin De Bruyne, tu sais, c'est.
Alvarez qui, je sais pas si avant, c'était plus reconnu comme un striker, maintenant qu'il joue derrière Haaland, je sais pas s'il avait déjà pris ce poste-là avant, mais il le fait très bien.
Exactement. Donc il sait comment composer avec ses joueurs, puis tu sais, c'est un tacticien, on le sait, mais il sait comment intégrer son football dans la tête des autres joueurs. C'est pour ça que souvent, quand les joueurs prennent leur retraite, ils disent que Guardiola, il a fait voir une autre vision du jeu, des trucs que tu vois pas sur le terrain d'habitude, que maintenant tu peux comprendre grâce à Guardiola. Donc c'est vraiment ça. Il faut pas, tu sais, dénigrer son travail parce qu'il a mis beaucoup d'argent pour acheter des joueurs. Il utilise ça à son avantage. City, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent comme Chelsea ou PSG. Donc, il l'a utilisé puis il en fait du bon travail, tout comme Klopp qui avec Liverpool. Ouais.
Puis, je pense, si on pourrait juste définir ça pour terminer, là, l'émotion, Klopp, la tactique, Guardiola. Je pense que c'est le même qu'on peut définir. Puis, niveau rivalité, c'est exceptionnel. Les deux qui se challengent depuis longtemps. Je pense arriver, je pense deux fois là, que c'était un point de différence entre les deux équipes pour le titre. L'année que Liverpool a fait, c'était quoi? C'était 98 points, puis ils n'ont pas gagné la PL. C'est incroyable, ça. Puis ça a dû, pendant 4-5 ans d'affilée, on a eu ça.
Puis c'était pas clair, en plus.
Ça va être peut-être encore ça cette année. Là.
Ouais. c'est ça qui était pénible, c'est que l'année que Liverpool avait perdu avec 98 points, là, la seule défaite qu'elle a eue, qu'elle va pas l'avoir eu cette année-là, c'était contre City.
C'était contre City.
C'est ça qui
était
assez fou.
Sinon, c'était que des nuls. Une seule défaite contre City.
Une défaite contre City. Mais par contre, tu sais, il y a quand même... City a vraiment eu l'avantage en Première Ligue.
C'est ça qui est dommage. Il a compétiné tellement d'années avec Guardiola, mais il y a eu seulement une PL.
Par contre, Jurgen Klopp peut...
seulement une. Cette année, c'est encore jouable.
Il peut se consoler en se disant que...
trois finales de Ligue des Champions.
Non seulement trois finales de Ligue des Champions, mais il y a juste eu un affrontement entre Klopp et Guardiola en Ligue des Champions pendant leur époque Liverpool, Liverpool City. C'était en 2018, puis c'est Klopp qui a gagné. Donc voilà.
En effet. Ouais, puis pour finir, si tu disais sur Xabi Alonso, qui est un excellent coach, mais peut-être que ça va vous surprendre, mais je ne suis pas certain que c'est le coach idéal pour Liverpool. Je m'explique parce que en ce moment, si on l'embauche, ça va être. Il va falloir complètement changer la tactique et la façon de jouer de Liverpool parce que Alonso est beaucoup plus niveau possession, calmer le jeu, tandis que du côté de Klopp, c'est un gegenpressing qui est dès que tu as perdu le ballon, d'aller presser l'adversaire, d'aller jouer très intense. C'est une game qui est très intense et reliée vers l'offensive. La contre-attaque peut-être moins qu'à ses débuts, mais quand même beaucoup plus intense, beaucoup plus du soccer agressif que Alonso. Puis avec des Luis Diaz, des Diogo Jota, des Núñez, c'est vraiment ce style de jeu-là qu'on prône. Donc si Alonso arrive, c'est pas le même genre de football, c'est pas le même genre de joueur. Donc je suis sceptique de ce qu'Alonso pourrait faire avec l'effectif actuel. C'est pour ça que je suis pas convaincu que c'est... Même si c'est vraiment un entraîneur exceptionnel, on le voit ce qu'il fait à Leverkusen, Je suis pas sûr que c'est le meilleur entraîneur pour le style de jeu qu'on a. Après ça, s'il veut vraiment changer toute la dynamique, amener d'autres joueurs, ça pourrait se faire. Ouais, c'est mais ça. Je suis pas certain. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est l'assistant coach, le Pep Lindjeder. Je me rappelle, je sais, ouais. pense pas que je le prononce comme du monde, là, mais l'assistant de club qui a dit qu'il quitterait parce qu'il voulait explorer ses options de coaching. Mais ça veut dire que s'il veut explorer ses options, ça veut dire qu'on ne l'a pas offert la job d'entraîneur-chef.
Ouais. Mais, bref, mais par contre, de toute façon, dans tous les cas, là, quand tu changes d'entraîneur, il y a toujours une transition ouais. pour l'effectif. Fait que moi, j'ai l'impression que cette partie-là m'inquiète un peu moins parce que de toute façon, le but, là, au final, là, c'est faut pas que tu trouves un entraîneur identique à Klopp. C'est impossible.
Non,
donc,
mais c'est quand même changer, des tactiques de jeu opposées.
Puis je me dis qu'il y a des joueurs à Liverpool qui seraient absolument exceptionnels avec le style de jeu de Xabi Alonso. Moi, je pense à un gars, le McAllister. Là.
Ouais.
McAllister serait absolument
exceptionnel. Non, j'ai pas de problème avec le milieu, je pense.
Exceptionnel wow. avec un entraîneur wow. comme Xabi Alonso.
T'sais, c'est plus nos attaquants en ce moment sont vraiment du style gegenpressing. Là, genre Diaz, Jota, Nunez, c'est ça. Là.
Mais il reste encore Salah, techniquement aussi. Là.
Ouais, Salah, ben, Salah, j'ai...
Salah même est primordial, j'ai... allô.
Ah, mais Salah, j'ai peur qu'il parte, là, honnêtement. Là. Je pense que l'Arabie Saoudite s'en vient pour lui, mais... Rien n'est fait de ce côté-là. Bon, assez parlé de Jurgen Klopp, là, honnêtement. Je l'adore, mais on va changer de sujet. Baptiste, tu voulais parler de... En fait, on voulait parler du mercato, et spécialement le mercato de Lyon durant cet hiver. Qu'en penses-tu? Beaucoup d'arrivées pour aider Lyon à se sortir de leur torpeur, qui ont déjà amorcé un peu là, avant le mercato.
Ben, le mercato en Europe cet hiver a été, on va dire, assez décevant. Je veux dire, il n'y a pas eu d'énormes changements dans les effectifs. Il n'y a pas eu de gros joueurs qui ont changé d'adresse. Il y a eu des petits changements par-ci, par-là. Puis Lyon, qui était club relégable au moment du mercato, qui termine au sommet des dépenses en Europe, c'est quand même fou. Ils font le plus gros mercato de leur histoire, qui ont misé beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la longue, surtout avec un entraîneur comme Pierre Sage qui est là jusqu'à la fin de la saison, puis après on va voir, mais... C'est prometteur, puis je pense que c'est bien pour eux. En ce moment, ils sont en train de se remettre sur une bonne séquence avec deux victoires consécutives contre des bonnes équipes, là, Marseille puis Lille aujourd'hui en Coupe de France. Donc, ça va être à voir, mais beaucoup d'argent investi, des joueurs plus ou moins, on va dire, confirmés. Donc, c'est des paris, mais...
Benrahma, c'est quand même intéressant.
Hein? C'est intéressant, mais c'est quand même un joueur qui sort d'une saison de misère avec West Ham.
Qui était plus titulaire à West Ham.
Plus titulaire, qui a été exclu de la sélection algérienne. Ça reste un énorme joueur avec beaucoup de talent. Puis même Jeff Torban qui arrive de Belgique. Malik Fofana.
Il a marqué, jeunes. Je pense.
Oui, Jeff Torban qui a marqué aujourd'hui. Ouais. C'est des joueurs... les deux Brésiliens, Adrielson et Lucas Perry... Donc, ça va être top.
Mais moi, j'ai une question à te poser. Parce que j'ai vu. Parce que j'avais regardé le match. Le derby entre les deux Olympiques. Puis, il y a un joueur, moi, qui m'a sauté aux yeux. Puis, beaucoup de gens à Lyon en ont parlé. Là, c'est le fameux Nouyama. Que je voulais avoir ton avis là-dessus. Il était absolument exceptionnel, pour vrai. Là.
Ben, Ernest Nouyama, il a fait une canne vraiment difficile. Je sais pas si vous avez vu, il a joué, je pense, 15 minutes avec le Ghana. Le Ghana, très décevant. Là, on n'en a pas parlé, mais...
C'est vrai, hein?
Canne très compliquée pour eux. Mais Nouyama, c'est un joueur que, depuis qu'il est arrivé l'été dernier, vraiment intéressant. Une bonne capacité de vitesse, une bonne capacité en 1 contre 1. Puis vraiment intéressant et agréable à avoir joué. Mais les statistiques suivent pas pour le moment, malheureusement, pour lui. Mais c'est un jeune joueur, là. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je pense que ça va venir... avec le temps, mais il a fait un gros match contre Marseille, à l'image de plusieurs joueurs, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe ce jour-là. Là.
Ouais. Okay, voilà, c'est juste ça que je voulais poser comme question.
Ouais. Mais pour ce qui est du mercato, on avait parlé un peu de Werner, de Dyer au premier. J'essaie de me rappeler, y a-t-il d'autres gros transferts qui seraient intéressants de parler? J'en ai pas tant que ça.
Il y a
en fait,
Sancho qui est parti.
Sancho, ben on avait parlé aussi, Sancho. Ouais, fait que, mais... Vraiment, un mercato pas mal tranquille. Il n'est pas nécessairement fini, je pense. Là,
oui, techniquement, il est fini. Oui, c'est ça. Oh, il est fini.
Il finissait fin janvier. Ouais. Ouais. C'est ben, y a la saga Mbappé qui est repartie, mais ça, c'est plus pour le mercato final, c'est vrai, parce que tout finit fin janvier. Mais ouais, Hans, ça a dit quelque chose.
C'est ça, moi, du mercato hivernal, je pense qu'on n'a pas été très, très servi.
Ouais, c'est pas divertissant.
Non, je pense pas que les équipes étaient vraiment en mode acheteur. cet hiver.
À part Lyon, mettons.
À part Lyon, justement, mais je pense que ça va vraiment plus bouger d'ici l'été.
Ouais.
Des grosses rumeurs, tu sais, Mbappé, comme d'habitude, mm-hmm. mais Osimhen aussi. Osimhen qui ouais. qui on a quand même des grosses rumeurs qui s'en viennent. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose, je sais pas, mais j'ai hâte de voir cet été parce mm-hmm. qu'il y a vraiment des équipes qui n'ont pas voulu mettre des sommes en cet hiver. Donc peut-être qu'ils attendent pour l'été mm-hmm. Pour dépenser. Donc on n'a pas été trop servi, ouais. mais on peut voir cet été. Là,
en fait, ce qu'on a eu comme mercato, c'est des annonces de départ de coach. Hein. Mourinho qui a été limogé de la Roma, Xavi qui part. On a parlé ouais. de beaucoup de clubs, mais Xavi qui laisse son poste libre au Barça.
Ouais.
Oui, Dou, vas-y.
Ça, par contre, on a oublié de parler de Xavi au Barça parce qu'on a eu, une discussion, moi et Ali, sur le départ de Xavi du FC Barcelone.
Que c'est puis, pas une c'est pas un renvoi, c'est une démission.
C'est une démission. Ouais. Ben, c'est une démission, j'ai l'impression qu'il n'est pas loin d'être une démission forcée, par contre.
Ben, Laporta a dit qu'il aurait compté sur Xavi l'an prochain. Est-ce ouais, que c'est vrai, ce qu'il dit?
Je sais pas, mais j'avais ouais. Peut-être que c'est ça, mon impression, mais j'avais l'impression que Xavi a peut-être perdu le vestiaire à Barcelone.
Peut-être, je dirais pas. Je pense qu'il l'a perdu.
Oui, ouais, il l'a perdu. Je sais pas mal ça. Mais bref, c'est juste que moi et Anna, on trouvait, je sais pas ce que vous en pensez, Hans et Baptiste, là, sur le fait que peut-être que les gens étaient un petit peu trop sévères avec Xavi, tu sais, parce qu'il faut ça fait... L'année passée, le Barça a gagné la Liga, là, c'est pas ouais. si longtemps que ça. Là.
C'est fou puis ce même... qu'il fait avec les circonstances économiques de ouais. gagner la Liga l'an dernier.
Puis, après... puis oui, excuse-moi de te couper, mais
c'est moi qui te coupé,
puis à partir de là, même au début de saison, c'était prometteur, qu'est-ce qui s'est passé du côté de ce Barcelone, mais après ça, il y a des circonstances que... incontrôlables, la blessure grave de Gavi, déjà ça j'ai l'impression que ça a pas aidé. Puis évidemment pour moi c'est la blessure qui a un peu scrappé la saison de FC Barcelone, c'est celle de Ter Stegen là, pour moi qui fait extrêmement mal FC Barcelone là. c'est terrible.
La défense du Barça c'est ouais, terrible
mais, oui mais c'est ça, mais l'affaire c'est que quand tu te retrouves avec une défense qui est fragile mais puis qu'en plus t'as pas ton leader ouais. Marc-André Ter Stegen qui fait tout le travail derrière, puis là, il n'est plus ouais. là.
C'est pas juste un travail de communication, c'est pas juste un travail d'arrêt, les gardiens, c'est aussi de la communication, aussi, puis les relances et
puis
tout.
Puis le fameux Araujo
qui n'est plus
le même joueur.
Jules Koundé, c'est désastreux.
Ouais. Mais Jules Koundé, par contre, ça c'est mon avis, c'est que Jules Koundé, c'est un défenseur central que le Barça a forcé à jouer à droite. Moi, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. Je pense qu'il serait... C'est peut-être mon avis, puis peut-être que je me trompe, mais j'aurais aimé ça le voir en défenseur central, surtout qu'on l'a vu à Séville jouer en défense centrale. Mm-hmm. Fait que moi, après ça, j'ai compris que il voulait miser sur Araujo puis que Christensen, mm-hmm. qui est quand même très bon, pour faire une charnière centrale puis mettre Jules Koundé à droite. Mais moi, j'ai l'impression, puis on l'a vu en équipe de France, que Jules Koundé à droite, c'est pas la solution numéro 1 de l'équipe de France, juste qu'il y avait une lacune. Donc moi, j'aurais aimé ça, voir Jules Koundé en défenseur central. Peut-être que ça réglerait un petit peu de choses du côté de FC Barcelone.
Ouais, c'est sûr. Puis en plus, c'est le Barça. Je pense qu'ils sont habitués à avoir des hauts standards, surtout qu'ils viennent d'une année championne. Donc, la marge d'erreur est mince. Là. Les partisans ne sont pas très ouverts à avoir des mauvaises prestations comme ils le font cette année. Donc, je pense que si ça allait être une décision mutuelle là, entre le club et Xavi qui allait partir, c'était sûr, d'ici la fin de la saison. C'est juste qu'il a annoncé plus tôt. Je pense que c'est pas plus mal non plus parce que une fois que tu perds le vestiaire d'une équipe, c'est pas un an après que tu vas le regagner. Je pense que il y a beaucoup de joueurs que tu vois qui sont pas dans leur forme naturelle. Tu sais, mettons le monde de ski.
Est-ce qu'ils sont en pente descendante ou c'est juste ça marche pas tactiquement?
Exactement. Je pense qu'il y a un manque de cohésion, peut-être de communication. Mm-hmm. Donc je pense que c'est pas plus mal pour le Barça. T'sais, il va finir l'année au moins. Puis l'année prochaine, ils vont pouvoir passer à autre chose. Gavi va être de retour. Ter Stegen aussi, sûrement. Donc,
Mais le point de Dou, c'était que faut quand même prendre conscience de ce qu'il a fait l'an dernier, Xavi, qui est exceptionnel. Ouais. Pas seulement le bashing, parce qu'on voit beaucoup de bashing sur les réseaux sociaux de Xavi, mais il a fait des bonnes choses au Barça. Baptiste, veux-tu acheter quelque chose sur Xavi, Mourinho?
Rapidement, un peu comme Dou, il est arrivé la pire ère du FC Barcelone depuis vraiment longtemps, là, on va dire depuis avant Messi. Uh-huh. Puis il a gagné la Liga, on l'a dit, à sa première saison. Il a complètement changé le club. Il est arrivé à une mauvaise phase, puis mine de rien, même cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ils sont encore en Ligue des Champions. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Ouais. Contre Naples, ça va être intéressant.
Ça va être intéressant contre Naples, qui est aussi en difficulté cette saison. Ouais. Puis en Liga, je ne pense pas qu'ils vont gagner cette année, mais on va dire qu'ils sont encore dans la course, même si le Real et Girona sont quand même un step au-dessus.
Je pense que ça va être un des deux. Là. Je le Real, aussi. J'imagine.
Je pense que le Real va l'emporter, mais... Mm-hmm.
Dire, faut, mais faut respecter... Salutations à Girona puis à Leverkusen.
Mais c'est ça, il faut respecter Xavi. Il est arrivé à une période vraiment difficile du club où pas grand monde aurait voulu de la job. Puis ben, il l'a pris, puis il a bien rempli ses souliers-là, comme on dit. Puis sinon, un transfert du Mercato qu'on oublie, pas un gros, mais pour le Canada, Tadjian Buchanan à l'Inter Milan.
Oui,
c'est quand même...
Merci de le mentionner, c'est gros. C'est il n'a pas joué prix. Encore, hein, je
non,
pense.
Non, il n'a pas joué. Non. Je pense que c'est parce que... Ils veulent qu'il parle un peu plus italien. C'est probablement un des seuls championnats qu'on voit ça. Ils veulent qu'il parle bien la langue. Après, bon, on va voir.
Ben, c'est très patriotisme, mais l'Italie, là. Ça, surtout Milan, j'ai l'impression. Là.
Ouais, c'est logique aussi. Là. Puis c'est bizarre, par contre. Je trouve ça particulier parce que peut-être parce que c'est pas une si grosse vedette que ça aussi. Là. Parce que je sais pas, par exemple, si on peut penser au cas de Neymar là, qui ça veut dire 5 mois en français là, Neymar, pendant 6 années à PSG.
Ben écoute,
si par exemple Neymar avait joué en Italie, est-ce qu'il aurait été forcé à parler italien? Je ne suis pas sûr non plus.
Mais en tout cas, c'est une technique qui a marché avec les Alouettes de Montréal. Jason Moss qui demandait aux joueurs d'apprendre leur numéro et leur nom en français, leur position. Fait que c'est pas mal ça. Pour conclure l'épisode, Baptiste, tu voulais nous parler un peu de la Ligue des champions CONCACAF qui a démarré, mais aussi où on pourrait, si on parle un peu d'MLS, parler de la tournée de l'Inter Miami qui fait jaser. Fait que si tu veux commencer avec la Ligue des champions CONCACAF.
Ben, la Ligue des champions CONCACAF qui a commencé hier, puis qui est vraiment intéressante cette année avec les clubs CPL. Nous, c'est Forge FC qui nous représente au Canada, qui affronte, je pense, dans 25 minutes Chivas, donc club légendaire du Mexique.
Ouais.
Premier match ce soir à Hamilton.
Mais c'est une première, ça, la CPL.
Oui, une première.
Ouais.
Puis ben, la semaine prochaine, ils se déplaceront au Mexique. Donc, pour eux, c'est vraiment incroyable, je trouve. On va voir le frère de Mathieu Chouanière.
David.
Pour voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte. Mm-hmm. Puis il y a les Whitecaps qui sont champions canadiens.
Uh-huh.
Puis je leur souhaite de performer. Qui ont
un
mercato moins flamboyant que le Canadien.
Le CF
Montréal. Mais... Vinny Sortini qui reste un bon entraîneur, puis l'équipe reste complète. Puis je pense qu'ils sont sur une bonne pente pour une fois, les Whitecaps. Ça n'a pas été le cas souvent les dernières années, mais là, ils sont sur une bonne pente montante en ce moment pour les futures années.
Mais merci pour ce topo sur cette Ligue des champions que je n'ai pas suivi encore. Puis pour finir, la tournée de l'Inter Miami, écoute, ça fait jaser quand même. Les débuts de Suarez, entre autres, qui ne sont pas très concluants, n'est-ce pas, Hans?
Ouais, pas très concluants. Je pense que c'est Miami au complet qui se met dans le rythme là, de la pré-saison et tout, le voyagement. T'sais, c'est pas comme les autres équipes qui vont ailleurs aux États-Unis pour se préparer ou quoi que ce soit, ou pas loin, au Mexique, quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment plus un marketing qu'autre chose.
Clairement.
Ils veulent faire de l'argent avec Messi puis leur star, mais dans tout ça, Messi a un problème aux adducteurs qui a fait en sorte qu'il n'a pas joué un match au Japon, qui a fait encore parler. Busquets qui se blesse. Donc, à deux semaines
C'est vraiment pas idéal, ça.
C'est ça, tu commences la saison du mauvais pied, mais c'est sûr que c'est une équipe qui va se réajuster au fil du temps. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Je pense pas nécessairement que c'est une bonne idée nécessairement d'aller voyager
en
Asie, loin de même.
Autant de matchs.
Autant de matchs, justement, parce que là, tu fais de l'argent, oui, mais c'est au détriment de la santé de tes joueurs, surtout tes joueurs vedettes. C'est Messi puis Busquets qui se blessent. C'est quasiment tes deux joueurs les plus importants d'une équipe. Suarez qui performe mal. Puis la saison commence justement dans deux semaines. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de se repasser avec ça. Donc peut-être pour les années futures, ils vont repenser à leur stratégie. Peut-être que d'autres équipes peuvent venir à Miami. Mais au moins, ils savent que l'année prochaine, ce ne sera pas à répéter.
Ouais, mais il y a les blessures puis aussi le rendement de l'équipe qui n'est pas très satisfaisant à date. Ça, on est loin d'être ça, mais si jamais, avec l'effectif actuel, l'Inter Miami ne faisait pas les séries en MLS, ce serait une catastrophe. T'avais-tu autre chose à dire sur cette belle troupe floridienne?
Non, pour vrai, je pense que Hans a tout dit. Là,
pas... Ben, je suis d'accord.
Mais à part que, peut-être que je vais finir là-dessus, là, mais t'sais, Suarez, là, c'est évident que le gars il est blessé et qu'il joue au-dessus de ses capacités. Là. Le gars, ça a l'air qu'il... Il est fini, là. Ouais. Clairement.
Il a déjà au Brésil à Grêmio. Il était fantastique, mais il était blessé.
Ça a l'air qu'il se force à jouer, littéralement.
Ouais. continue.
Ouais, mais ça, je pense que tu allais racheter là-dessus. Mais non, Suarez, clairement, que c'est juste un triple qu'il fait. Là, genre, de juste jouer avec ses amis. C'est genre juste jouer avec ses amis. C'est littéralement le cas. Fait, est-ce que c'est une bonne idée? Pas certain, mais regarde, on verra qu'est-ce qui se passe avec, avec l'Inter Miami. Là. Mais écoute, si Messi est capable de venir à Montréal,
ouais, le 11 mai prochain,
je dirais pas non.
Allez-vous dépenser 400 kecks, les gars?
Non.
Non, je vais le regarder confortablement dans mon salon. Mais,
tu veux pas vivre l'expérience au stade?
Écoute, j'aimerais bien, mais je pense que les billets vont partir très vite. Mais...
Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai regardé pour t'es parmi les billets de saison, puis mm-hmm. il y avait 9 CF sur 6 billets de saison,
ouais.
Dont Miami,
puis c'était cher.
750.
C'est
ça.
Ouais.
C'est la folie. Mais c'est le trois quarts du prix de ces 750 là est dans le match
voilà.
De Miami.
Voilà.
Personnellement, j'espère être sur les lignes de côté là.
Ah, c'est avec, tout, tu serais chanceux. Ouais.
Je sais pas encore si je vais retourner, ouais. Puis s'ils vont me garder, mais. Uh-huh.
Ah, comment ça,
ça serait fun,
ouais.
Hein?
Ouais.
Ça serait pas
fun. Ah, ouais, puis au Québec, on enverra quelqu'un à accréditation.
Exactement. Si on réussit à l'avoir.
Moi, je veux la faire. Moi, je veux la faire. Mais c'est vrai, il faut réussir à l'avoir. Mais bon, ben, ça conclut bien, je pense, cet épisode-là. Le premier, comme on le disait en studio. Donc, c'était Olivier Prince-Grosloy à l'animation. Hans Doualé, Baptiste, quel plaisir ce fut de jaser en présence ensemble.
Merci à toi.
Ouais, plaisir partagé.
Et puis, on se reverra très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon. Salut à tous!